Alors, le Radio Bac 33e de la saison, d'ailleurs un des derniers de cette saison, a pour invité aujourd'hui Christian Lapalu, dont je disais tout début qu'il est, entre autres, on va y revenir, maire de Vintenac-Minervois. On va commencer par là, Christian Lapalu. Donc c'est une petite commune, c'est un village au sens alors noble du mot. Par rapport à ce que disait Michel tout à l'heure, certains villages où certaines communes cherchent à s'étendre de façon peut-être inconsidérée, en tout cas rapide, et déstabilisent un peu la configuration du village. Je crois que vous êtes plutôt en contre-pied de cette position-là.
Mais disons que moi, d'abord, je suis né à Vintenac, hein, et bon, j'ai vu l'évolution du village, et je me dis... Et je me dis que bon, les gens quand ils viennent sur un village comme le nôtre, hein, il faut qu'ils se sentent bien et qu'on a envie de vivre une certaine façon, avoir une qualité de vie. Pour cela, c'est mon choix et celui de mon conseil municipal. Depuis des années, mais si vous voulez, l'évolution de village, on essaye de voir un village qui évolue pour avoir cette qualité de vie. Moi, je par rapport à d'autres élus qui souhaitent vraiment mettre davantage de lotissements, de maisons dans leur village, moi j'ai rien contre. Hein. Mais si vous voulez, me semble-t-il, ces villages qui sont un peu ces villages ruraux, la qualité de vie, et c'est ce qui attire les gens qui viennent dans nos villages pour être vraiment avec des associations qui fonctionnent bien, et que les gens viennent pas juste dormir dans le village et puis ne pas participer à la vie. Ça, c'est contre-productif pour moi dans la façon de voir les choses. Je suis né à Vintenac, je prends plaisir tous les matins à faire le tour de mon village le soir, et je vois les gens, on se salue, voilà, il y a cette qualité de vie où on reste toujours c'est vraiment la proximité, c'est ce qui me plaît.
Oui, alors c'est vous voulez dire par là, j'imagine, que vivre dans un village comme Vintenac, entre autres, c'est une philosophie, un état d'esprit, c'est un monde que vous souhaitez conserver.
Voilà, exactement, c'est vraiment une philosophie, c'est choisir certains villages, parce que nous avons la chance sur notre territoire, hein, le Grand Narbonne et au-delà, hein, et nous sur le Minervois particulièrement, avoir des villages vraiment très jolis, avec du caractère, hein, et sur lequel, bien sûr, les gens qui choisissent, moi je dis, de vivre dans nos villages, c'est pour avoir une certaine qualité de vie, une certaine tranquillité, et c'est ce que j'essaye de défendre avec mon conseil municipal.
Oui, alors vous voulez pas qu'il y ait, si je puis dire, tromperie sur la marchandise.
Et exactement, voilà, il faut que, comme je dis, les gens participent, puissent vivre et se sentir bien dans leur village.
Alors, Vintenac fait partie du Grand Narbonne, d'ailleurs, dont vous êtes un des vice-présidents. Vous êtes plus proche, probablement, de Lézignan que de Narbonne. Pourquoi avoir choisi le Grand Narbonne en communauté d'agglomération ?
Moi, si vous voulez, en 2009, j'étais président de la communauté de communes du Canal du Midi en Sud-Minervois. Et quand j'étais élu, si vous voulez, tout ce qui est nos communes, le bassin de vie, même si ma commune est à moitié entre Lézignan et Narbonne, et même si mon cœur, à titre personnel, puisque Lézignan, c'est particulier par rapport au rugby à 13, au Fosseleu, et j'ai joué jeune là-bas, et c'est vrai que le bassin de vie était sur le Narbonnais, toutes ces communes, et de fait, il était évident de venir plutôt sur Narbonne et le Grand Narbonne.
Oui, parce qu'il y a une communauté de communes sur le Minervois aussi.
Oui, non, mais nous, il y avait la nôtre, nous étions 12 villages, et sur 12 villages, vous avez 11 villages de chez nous, de la communauté du Sud-Minervois, qui est venu intégrer le Grand Narbonne, et une seule qui s'appelle Paraza, qui, elle, est allée sur la communauté du Lézignanais.
Qui jouxte Vintenac.
Ah oui, oui, c'est pour ça que je pose la question.
Alors, je vous explique par rapport à ce qui est dit. Paraza, par exemple, c'était le village en limite qui pouvait aller au collège Anglade à Lézignan avec les élèves du village. Et ceux de Vintenac, c'était Victor Hugo, entre autres, sur Narbonne. Ah, ça veut dire que déjà, nous avions cette limite de fait. C'est pour ça que ces villages-là, sont venus les 11 sur les 12 sur le Grand Arbre.
Ah oui, vous êtes un peu conformé à un usage ancien déjà.
Oui, et puis comme je vous ai dit, c'est ouais le bassin de vie. Les gens sont plus habitués à aller sur Narbonne faire les emplettes que sur le Lézignanais, bien qu'aujourd'hui, il y a quand même du monde qui va sur le Lézignanais aussi, puisqu'on est à peu près à 15 km de différence de Lézignan-Narbonne.
Oui. Alors, à propos de Lézignan et du Lézignanais, on fait une petite parenthèse rugby. Vous êtes un des coprésidents donc du FOSELE, du football club Lézignanais, le rugby à 13 de Lézignan. Michel a déjà émis un certain doute sur la possibilité pour un club de fonctionner avec plusieurs présidents. Dites-nous comment ça se passe du côté de Lézignan, Christian Lapalu.
Eh bien voilà, nous, ça fait une quinzaine d'années. Bon, le club, malheureusement, était au plus bas. Et Michel Maïc, qui était à ce moment-là adjoint au maire, et qui était en charge du sportif, avec Patrice Bourrel, qui était... des anciens aussi qui avaient fait 12 ou 15 saisons au FOSELE, nous ont demandé de nous réunir, et la plupart d'anciens joueurs. Et ce jour-là, lors de cette réunion, nous étions peut-être une centaine d'anciens joueurs, il avait été décidé de donner un coup de main au club et de faire partie. Alors nous, au départ, à quelques-uns, on a dit ben, on va se mettre commission sponsoring pour aider le club et surtout aussi financièrement. Et nous étions quatre copains qui avions joué au FOSELE et dont nous avions des petites ou moyennes entreprises. Et on s'est dit on va se mettre à la commission sponsoring pour aider le club, le FOSELE, à reprendre un peu de couleurs. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est pris au jeu. On se connaissait, mais on a appris à se connaître encore mieux, et on a décidé à un moment donné de passer, on nous appelait les quatre mousquetaires, quatre copains. Vous aviez Philippe Espeluc, Richard Gélis, Jacques Laguens et moi-même, et nous avons repris le club avec d'autres amis autour, et depuis on s'occupe du FOSELE.
Et aujourd'hui vous êtes trois.
Alors, ça change d'une année à l'autre, puisque il y a des coprésidents, enfin, qui passent vice-président, mais si vous voulez, globalement, c'est la même équipe depuis 15 ans, parce que malheureusement, d'abord, il n'y a pas beaucoup de gens qui tapent à la porte pour demander à être coprésident ou président. Et de fait, bon, et puis on a une entente parfaite, ce sont vraiment des amis. Et je le dis sur votre radio, même si on est entre garçons, on s'aime, on a une amitié forte, on se respecte et on s'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'on s'est investi, on continue à s'investir pour le bien du club.
Oui, c'est-à-dire que vous avez pérennisé une situation que vous aviez connue sur les terrains.
Oui, en plus, bon, sur les quatre, il y en a un avec qui j'ai eu la chance de jouer dans la même équipe, et nous avions été en 78 champions de France, et quand je pense à Narbonne, la même année, en 78, nous avions joué avec Richard Gélis et moi dans l'équipe du FOSELE, où il y avait plus de 22 000 ou 23 000 personnes à l'Égard-Sierral. C'était d'ailleurs le record n'a jamais été battu pour une question de sécurité, et on avait joué la finale de la Coupe que nous avons perdu contre le 13 catalan.
Oui. Juste une petite question, là, où en sont les tribunes du stade du Moulin?
Alors, les tribunes, vous savez, c'est quelque chose, d'abord, ça a été vraiment un grand malheur par rapport à tous les supporters, les gens impliqués dans le rugby, même au-delà. Il a fallu bien sûr beaucoup de temps, parce que vous savez, quand savoir comment ça s'était passé, voilà.
L'enquête, quoi, pour
après
savoir
l'enquête,
pourquoi elles avaient brûlé.
Les assurances, les expertises, tout. Et aujourd'hui, on est sur une reconstruction. Et comme Michel Maïc, le maire de Lézignan, et en plus qui était notre capitaine de l'équipe du FOSELE et de l'équipe de France aussi, à 13, il est aussi, un peu comme nous, les anciens joueurs, attachés à un certain style qui existait et dont on voudrait pas, sauf en changeant certainement les matériaux pour ne plus que ça brûle une fois de plus, mais c'est pour essayer de garder un peu cette même philosophie, cette même esthétique qu'on avait, parce que ces tribunes, quand même, elles ont quelque chose de particulier, et ce terrain du Moulin, ça fait un peu stade à l'anglais, comme à l'époque, et c'est quelque chose sur lequel...
C'était des tribunes en bois.
Voilà, des tribunes en bois, et on souhaiterait avoir un peu ce même... avec des matériaux différents, mais rester un peu dans le même style.
Ah oui, comme pour Notre-Dame, à l'identique.
Ah, ça, je sais pas.
Alors refermons, Christian Lapalu, cette parenthèse rugby, revenons à vos différentes casquettes d'élus. Donc, vous êtes conseiller départemental également, et vous vous occupez, par exemple, de l'agrandissement ou de l'aménagement, je ne sais pas quel est le mot qui convient le mieux, du Somail. Alors, rappelons que c'est un site écartelé sur 3 communes, je crois, mais que le Grand Narbonne envisage de nettement améliorer sur le plan touristique, notamment.
Voilà. Disons que, alors, le Somail, c'est particulier. C'est un hameau. Et si vous voulez, c'est 3 communes qui gèrent ce hameau. Vous avez 70% la mairie de Saint-Nazaire-d'Aude, 20% la mairie de, j'ai dit Saint-Nazaire-d'Aude, 70, 20% Ginestas et 10% Salel. Et ces communes, bien sûr, dont nous faisons partie, sont au Grand Narbonne. Et le projet, c'est le Grand Narbonne, avec Didier Codorniou, qui est responsable du tourisme, et sur lequel on se bat depuis des années, pour l'aménagement de ce hameau, qui est un hameau où il y a quand même 500 personnes, c'est dire ça pourrait être un village, mais ce statut est comme ça depuis très longtemps. Et nous essayons justement, par le biais du Grand Narbonne et tourisme, et mettre en valeur ce côté du Grand Narbonne. Vous avez bien sûr le littoral avec tous les aménagements qui sont faits et dont on sait que voilà, c'est quelque chose de touristique, mais on sait aujourd'hui que du côté du sud minervois, dont on fait partie avec le Somail, avec le canal du Midi, c'est aussi une ferveur de plus en plus importante avec ce canal du Midi, ce joyau que Pierre-Paul Riquet nous a laissé, et sur lequel, bien sûr, le Somail fait partie du côté touristique de ce côté-là. Et il va y avoir près de 2 millions d'investissements. Il y a eu un projet qui a été présenté à la population, qui est bien accepté. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a déjà 2 ans où le Grand Narbonne avait investi sur le point information tourisme et le grand bâtiment, où il y a eu déjà plus de 700 et quelques mille euros d'investissement, de remise en état de ce bâtiment. Et vous avez à côté Nichols avec la location des bateaux, avec un grand parking. Enfin, aujourd'hui, c'est plus propre que ce que c'était, plus attirant. Et on va mettre en place justement tous ces investissements pour mettre beaucoup de verdure, replanter et faire en sorte que ça soit là aussi un coin touristique du Grand Narbonne et du côté sud minervois et canal du Midi.
Voilà, donc pour les grands navigateurs du canal du Midi.
Voilà, il faut savoir que ils sont de plus en plus nombreux, puisque ma propre commune, Ventenac-en-Minervois, est bordée par le canal du Midi. Et c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui passe sur le canal du Midi. Et on voit de plus en plus, grâce à cela, une économie sur ce territoire qui est de plus en plus positive.
Oui, donc à bien à prendre au passage et à bien exploiter.
Tout à fait.
Et à ce propos, où en est la replantation?
Alors sur la replantation, là aussi, nous sommes avec le Grand Narbonne, puisque moi je suis l'élu référent par rapport au canal du Midi, représentant le Grand Narbonne, et je vais dans des réunions, que ce soit à Toulouse avec les préfets de région, que ce soit dernièrement, là c'était sur les 4 galles du territoire, Hérault, Aude et nous étions en réunion avec un nouveau responsable de l'État qui remplace Madame la sous-préfète région qui s'appelait Madame Delaunay, qui avait en charge tout le travail à venir sur le canal du Midi avec les collectivités, les villages et les EPCI, enfin tous ceux qui vont travailler pour le bien du canal. Et là aussi, il y a un travail qui est mis en place. Pour ce qui est des replantations, il faut savoir qu'il y a 42 000 platanes qui vont être abattus dans les 10 ans à venir.
Hein, oui, c'est déjà un plan à long terme.
Ah oui,
moyen puisque
c'était 200 millions d'euros d'investissement. Et vous avez bien sûr la région, nous les collectivités nous aidons aussi, puisque même au niveau du Grand Narbonne, nous avons mis une enveloppe sur 2-3 ans pour essayer d'aider à la replantation. Vous avez les mécénats, bien sûr l'État, VNF, mais ne serait-ce pour vous donner un ordre d'idée, ma propre commune, Ventenac-en-Minervois, j'ai à peu près 670 arbres sur le linéaire de ma commune, j'ai eu 570 arbres abattus,
c'est-à-dire la
et j'en ai eu 550 de replantés.
La quasi-totalité totalité.
Ah oui, oui.
Donc ce chantre coloré avait fait,
ah oui,
a
fait, si vous voulez, on pensait que ça pouvait éventuellement mettre plus longtemps, et puis on s'aperçoit que d'une année à l'autre, il y a des endroits qui sont de plus en plus dévastés. Et bon.
Oui, donc il fallait agir. Enfin, pour vous, vous avez un regard positif là-dessus, parce que certains avaient rouspété.
Mais moi, j'avais été de ceux qui rouspétaient, parce que bon, quand vous êtes impacté dans votre propre commune, vous savez de quoi vous parlez. Mais par contre, aujourd'hui, par rapport à un certain moment où il y avait un manque de communication, où j'étais allé jusqu'à Paris, à Matignon, défendre les dossiers sur les avantages du canal du Midi avec d'autres élus. Et là, on s'aperçoit que, bon, c'est inévitable.
Ça s'est amélioré, quoi.
Et on sait maintenant qu'il y a une communication différente. On nous a bien fait entendre que, malheureusement, voilà,
communication et action.
Et aussi, il y a le fait de travailler, et c'est ce que j'avais demandé, au moins travaillons rapidement sur la replantation. Il faut savoir si, puisque vous m'en donnez l'opportunité. À titre personnel, dans mon propre village, j'ai monté une association avec des amis, Nouvelles Racines pour Ventenac à Minervois, où c'est intergénérationnel, les écoles, les personnes de tout âge, et on essaye de faire en sorte de ramasser des fonds pour replanter sur le canal du Midi les arbres.
Pour aider. Donc c'est véritablement une action qui est soutenue aujourd'hui par la population.
Tout à fait.
Très franchement.
Et au-delà de notre village.
Oui, on peut l'imaginer, puisque c'est tout le parcours quand même de ce canal jusqu'à Toulouse qui est concerné.
Tout à fait. Parce que Toulouse était moins touchée, et puis là j'étais en réunion dernièrement, et il y avait des gens de Toulouse.
Et la contagion gagne.
Toulouse, et ça commence à toucher le Toulouse. Ça veut dire que dans tous les cas, malheureusement, ça sera sur toute le linéaire du canal du Midi.
Alors Christian Lapalu, donc maire de Ventenac-Minervois, vous, il n'y a pas Notre-Dame de Paris, comme je disais tout à l'heure, mais vous avez l'église Saint-Pierre. Vous avez, vous aussi, une église, un patrimoine à protéger et sur lequel il faut investir.
Tout à fait. Et là, si vous voulez, la commune de Ventenac, depuis plus de 20 ans, puisque bon, j'étais conseiller municipal à l'époque, met un budget tous les ans pour mettre en état l'église de Ventenac. Et en plus, alors, nous avons une chance extraordinaire, où nous avons une association Saint-Pierre, avec Monsieur Thor, Monsieur Deschamps et d'autres personnes, qui, ces bénévoles, mettent en valeur le patrimoine communal. Et nous les aidons, nous aussi, avec la mairie, de mettre des budgets tous les ans pour que ce patrimoine et cette église, qui est vraiment magnifique, soit entretenue et puisse justement être là aussi une valeur sur un patrimoine de notre commune dont on peut faire visiter ou dont les personnes peuvent aller.
Oui, et lorsque, alors je reviens sur Notre-Dame de Paris, même si ça ne m'obsède pas, lorsque la présidente de région a voté une subvention ou un don pour Notre-Dame de Paris, présidente de l'Occitanie, comment avez-vous pris cela? Parce que beaucoup se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle va, excusez-moi l'expression, foutre du pognon à Paris alors qu'on en a besoin chez nous.
Alors, si vous voulez, là aussi, ça a été la... Au départ, quand on a vu, tout le monde a été sensible au fait de voir Notre-Dame en feu, et la première des choses, on a envie d'aider. Et ça, je le comprends. Et par contre, au fur et à mesure, quand on voit qu'il y a 1 milliard d'euros qui ont été pratiquement des dons de 1 milliard, par des grandes familles françaises pour la plupart, mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, même ma propre commune, ce sujet-là est passé en conseil municipal et nous avons décidé de ne pas donner de sommes particulières, puisqu'on a vu que c'était vraiment au niveau national. Ils n'avaient pas besoin de nous, et par contre, voilà, on préfère quand même, et je le comprends, il y a d'autres maires, d'autres élus, d'autres régions de France qui, j'avais regardé sur certaines émissions, des maires qui s'étaient engagés, mais qui sont revenus en arrière, parce qu'ils avaient les conseils municipaux qui les avaient un peu perturbés, en disant, on a certainement affaire chez nous, avant, voilà. Je pense que pour Notre-Dame, il n'y aurait pas eu cette enveloppe aussi importante, peut-être nous aurions participé. Aujourd'hui, quand on voit le résultat et quand on voit le patrimoine que nous avons dans toutes les régions de France, c'est vrai qu'à un moment donné, essayons de faire chez nous avant de faire peut-être à notre niveau.
Voilà, charité bien ordonnée, comme dit le proverbe, commence par soi-même. Et pour conclure, Christian Lapalu, on va parler un petit mot sur l'élu. Alors justement, je disais, vous avez diverses casquettes. D'ailleurs, Michel avait fait remarquer à un moment que, à son goût, vous en aviez un peu trop. Mais ça, c'est une opinion, encore une fois, émise très librement dans le cadre de cette émission Radio Barque. Justement, comment arrivez-vous à concilier, alors on n'est plus à des exécutifs très forts, mais vous êtes, je le disais, donc maire, conseiller général, enfin départemental, vice-président du Grand Narbonne. Comment voyez-vous le statut de l'élu aujourd'hui, à la fois maire aussi d'une petite commune?
Mais écoutez, bon, Monsieur Santos, il a eu certainement raison de dire, bon, on dit des fois ce sont des cumulards. Mais si vous voulez, à mon niveau, je pense que, bon, je pense pas être un cumulard. Je suis une personne dont l'investissement a été toujours, depuis jeune, j'ai toujours aimé m'occuper de beaucoup de choses, de m'occuper des autres, d'aider les autres. Et c'est vrai que, bon, j'arrive à gérer tout ça. Il y a, bien sûr, pour être... entre parenthèses, présent, performant, le terme que vous voulez, je ne sais pas lequel employer, mais assumer ses responsabilités, il y a aussi le fait, de, comme partout, d'être bien épaulé et d'avoir des gens qui vous aident bien, et c'est le cas. À quel que soit mon niveau, j'ai des gens qui sont compétents aussi, qui m'aident dans tous mes engagements. Moi, la chose qui me plaît vraiment, c'est de m'occuper des autres. Et comme je le dis souvent, vous savez, pour s'occuper des autres, il faut aimer les autres. Je pense que je suis quelqu'un qui aime les autres personnes et j'ai envie d'aider. Et tant que je pourrai le faire, j'assumerai mes responsabilités.
Oui, donc pour vous, l'engagement de l'élu, ça reste quand même un sacerdoce.
Tout à fait. Et puis je revendique une chose, je suis un élu de proximité. C'est pas juste écrit sur un papier. Moi, au quotidien, je vois des gens. Du soir au matin, et je suis à l'écoute.
Alors juste rapidement, oui, Michel, oui.
Je n'utilisais jamais le terme cumulard, je le trouve très vulgaire d'ailleurs, entre parenthèses, et je fais simplement allusion au fait que lui-même, en fait, lui-même avait dit qu'il ne serait jamais, en fait, quand il serait élu conseiller départemental, à la fois vice-président de l'agglo et conseiller départemental.
Voilà, et que finalement, si je puis dire, au pied du mur et à l'épreuve des balles, il a fallu changer d'optique.
Exactement.
À cause peut-être...
J'aurais dû me mordre la langue, c'est vrai.
À cause, pour... bon, on peut le dire, puisqu'on explique tout dans cette émission, à cause de pressions d'appareils politiques qui font que même quand on voudrait faire certaines choses, on ne les fait pas forcément. Merci en tout cas, et notamment de votre franchise, Christian Lapalu. Le prochain invité sera Monsieur Sainte-Cluc, après quoi nous recevrons Didier Mouly. Je cite de mémoire Alain Perea et nous terminerons la saison de ce Radio Barque par peut-être un futur maire d'une commune du Grand Narbonne, Monsieur Chalulot, pour Ouveillant. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci.